Impact, un roman de Éric Simon. Chapitre 20. 16 octobre 2025. Le 16 octobre marqua la destruction d'un satellite emblématique pour les Américains, le plus vieux satellite qui était encore en orbite. Vanguard 1 était le premier satellite artificiel dont le lancement avait été réussi par les États-Unis, quelques mois après le succès du lancement de Spoutnik par les Soviétiques. Vanguard 1 était un petit satellite de moins de 2 kg qui avait été placé en orbite le 17 mars 1958. Il avait été conçu pour étudier les effets de l'environnement spatial sur un satellite et ses systèmes. Il devait également étudier la haute atmosphère et obtenir des données géodésiques sur le globe terrestre. C'est pour cela qu'il avait été positionné, contrairement à Spoutnik, sur une orbite très elliptique, qui s'étalait entre 654 km et 3969 km, avec une inclinaison de 34,5 degrés. Les ingénieurs américains de l'époque avaient calculé qu'il devait rester en orbite pendant 2000 ans. Puis, au vu des données enregistrées sur le freinage atmosphérique, cette durée avait été revue fortement à la baisse pour atteindre 240 ans. Le dernier signal radio de Vanguard 1 avait été capté en 1964, mais il était toujours suivi de près depuis lors par les radars du NORAD puis du SSN. Avec sa fragmentation, il était probable que son résidu finisse par retomber un peu plus tôt que prévu, mais ça se comptait toujours en dizaines d'années. Lorsqu'il brûlerait finalement dans l'atmosphère, comme tous les autres satellites un jour ou l'autre, il injecterait les composants toxiques de ses batteries dans l'atmosphère terrestre. Celle-ci était composée de mercure. Vanguard 1 était aussi célèbre pour avoir été muni des premières cellules photovoltaïques au silicium pour recharger sa batterie. La multitude de fragments qui étaient en train de s'accumuler dans l'orbite n'était pas seulement composée d'aluminium, de résidus de carburant, de comburant ou d'éléments toxiques de batterie. Il y avait également des éléments radioactifs. Ce fut seulement quelques années après les premiers lancements de satellites que furent mis en orbite les premiers spécimens munis de générateurs thermoélectriques au plutonium, en 1961. Le premier du genre, qui avait fini par se désintégrer dans l'atmosphère, fut le satellite américain Transit 5 BN3, le 21 avril 1964. Son générateur SNAP-9A au plutonium-238 se désintégra dans l'atmosphère au-dessus de l'océan Indien, au nord de Madagascar. L'éparpillement du générateur accrut de 4% la quantité totale en isotopes de plutonium sur Terre, qui provenait alors principalement des essais d'armes nucléaires atmosphériques. Mais plusieurs satellites de la classe des transits, tous munis de générateurs thermoélectriques au plutonium, étaient toujours en orbite 60 ans après leur lancement. Le plutonium qu'ils contenaient avait une demi-vie radioactive de 87 ans. Son activité n'avait donc pas encore été divisée par deux depuis l'époque. Malgré plusieurs échecs retentissants, les Américains avaient néanmoins poursuivi dans l'utilisation des générateurs au plutonium-238 avec les satellites météorologiques Nimbus. Nimbus 3 avait fonctionné pendant 3 ans pour s'arrêter en 1972, mais naviguait toujours sur une orbite quasi polaire à 1100 km d'altitude avec son générateur SNAP 19 comportant 15 kg de plutonium-238. Le plutonium de Nimbus 3 avait vécu quelques péripéties. Il avait déjà fait un petit tour dans le fond de l'océan Pacifique, suite à l'échec au lancement du précédent satellite Nimbus 1B. Le générateur isotopique avait pu être récupéré quasi intact au fond de l'eau, puis recyclé pour être réutilisé. Les Américains avaient utilisé par la suite massivement les générateurs au plutonium pour alimenter diverses sondes spatiales qui ne pouvaient pas exploiter l'énergie solaire, comme les sondes martiennes Viking, les Pioneer ou encore les Voyager, Cassini ou New Horizons. À chaque lancement de ces sondes, le risque de dispersion du plutonium était réel en cas de défaillance du lanceur. Mais les Américains avaient fait encore plus risqué. Le 3 avril 1965, ils avaient lancé le satellite Snapshot, qu'on appelait aussi Snap-10A, depuis la base militaire de Vandenberg, avec une fusée Atlas Agena D. Ce satellite avait été placé avec succès à environ 1300 km d'altitude, sur une orbite polaire légèrement rétrograde. Sa source d'énergie électrique n'était ni plus ni moins qu'un mini-réacteur nucléaire à fission, générant 35 kW d'énergie thermique qui permettait de produire 500 watts d'énergie électrique pendant un an. Il était composé d'uranium fortement enrichi, à 93% en uranium-235. Mais 43 jours après son lancement, un régulateur de tension du satellite était tombé en panne, ce qui avait entraîné l'arrêt prématuré du cœur du réacteur. Il avait néanmoins eu le temps de produire des fissions nucléaires en quantité, avec les produits de fission radioactifs qui y étaient associés. Suite à l'avarie, les militaires américains avaient décidé de laisser Snapshot sur son orbite à 1300 km d'altitude, là où ils avaient calculé qu'il devrait rester pendant 4000 ans. Mais en novembre 1979, une soixantaine de débris furent repérés autour du satellite, probablement déjà produits par une collision avec un petit corps. Des matières radioactives s'étaient peut-être déjà dispersées malgré une apparente intégrité du corps principal du satellite. Les Soviétiques des années 60 n'avaient pas été en reste. Eux aussi avaient rapidement déployé des générateurs isotopiques, tout d'abord à base de sources radioactives puissantes, puis d'un émetteur alpha intense comme le plutonium-238, qui avait le gros avantage de produire de la chaleur en continu sur une longue durée. Et ils avaient même largement dépassé les Américains dans le concept de l'énergie nucléaire spatiale. Depuis la fin des années 60 et jusqu'à la fin des années 80, les Soviétiques avaient officiellement lancé 34 satellites munis de petits réacteurs nucléaires à fission, fonctionnant à l'uranium fortement enrichi. Les Soviétiques avaient opté comme les Américains pour des réacteurs à neutrons rapides, pour des raisons d'espace et de poids, car les matériaux d'un modérateur neutronique augmentaient considérablement le volume et la masse de l'ensemble. Le premier réacteur qu'ils avaient développé spécialement, qu'ils avaient nommé BES-5, nécessitait un uranium enrichi à 95% en uranium-235 pour compenser le taux de fission plus faible induit par les neutrons non ralentis. Les 5% d'uranium-238 pouvaient également produire du plutonium-239 par capture neutronique au cours du fonctionnement normal du réacteur, et ce plutonium-239 était lui aussi fissile avec des neutrons énergétiques. Le cœur du réacteur, qui avait un diamètre de 24 cm et une longueur de 67 cm, comportait environ 35 kg d'uranium enrichi. Il générait 100 kW thermique, ce qui produisait 3 kW de puissance électrique, bien plus efficace que les générateurs thermoélectriques au plutonium-238. Ces satellites militaires de la famille des RORSAT étaient placés sur des orbites très basses, à moins de 300 km, et avaient une durée de vie de seulement quelques mois. Peu de temps avant la fin de leur mission, le compartiment réacteur était propulsé vers une orbite plus élevée, vers 1000 km, pour éviter qu'il ne rentre dans l'atmosphère immédiatement, mais ne le fasse que 600 ans plus tard. Il existait donc un cimetière de réacteurs nucléaires usés aux environs de 1000 km d'altitude à différentes inclinaisons orbitales, qui était offert en cadeau empoisonné aux générations futures. Le délai des retombées initialement calculé de plusieurs siècles était désormais probablement surestimé du fait de la ceinture de débris en cours d'accumulation, qui pourrait s'étendre jusqu'à 1000 km. Parmi les 34 satellites nucléaires lancés, il n'en restait plus que 32 en orbite. Deux d'entre eux avaient subi des avaries et étaient rentrés dans l'atmosphère prématurément avec leurs réacteurs nucléaires. Cosmos 954 était retombé le 24 janvier 1978 dans le nord-ouest canadien, provoquant une contamination radioactive d'une zone de 124 000 m². Et Cosmos 1402 était rentré également dans l'atmosphère le 7 février 1983, mais avait brûlé au-dessus de l'océan Atlantique, loin des zones peuplées. Mais parmi les 30 satellites soviétiques munis du réacteur BES-5, qui restaient en orbite, l'un d'entre eux n'avait pas atteint son orbite cimetière, à cause d'une défaillance. Aux dernières nouvelles, Cosmos 1900 et son réacteur évoluaient toujours entre 685 et 748 km, sur une inclinaison de 66,1 degrés. Lars Anderson était un civil comme Laurie. Ils étaient tous les deux sous le commandement d'une lieutenant de la Space Force qui était beaucoup moins commode que ne pouvait l'être le grand patron, le colonel O'Rourke. C'était le lieutenant Wemba qui avait confié un an auparavant à Lars le suivi spécifique des objets nucléaires en orbite. Elle l'avait choisi pour cette tâche au vu de son CV et des études qu'il avait suivies à Penn State. Lars connaissait bien la physique nucléaire. Il avait longtemps hésité, à la fin de son master, entre suivre une spécialité dans les données nucléaires, qui étaient utilisées par les codes de simulation neutronique, pour la conception des réacteurs innovants, ou bien une spécialité dans les big data. Il avait finalement opté pour la seconde, qui offrait plus d'opportunités, étant applicable à de nombreux domaines. Depuis qu'il suivait la flotte qui comportait les BES-5, Lars s'était abondamment documenté sur ce petit réacteur à l'uranium hautement enrichi. Il en connaissait à peu près tous les détails que les services de renseignement avaient pu lui fournir, en plus des données qui étaient maintenant publiques. En plus des 30 BES-5, il y avait également deux autres réacteurs russes à l'uranium fortement enrichi, un peu différents, mais fonctionnant aussi avec des neutrons rapides, les réacteurs Topaz. Ils avaient été intégrés sur les satellites espions Cosmos 1818 et Cosmos 1867, tous les deux lancés en 1987. Le système de conversion thermo-ionique pour générer de l'électricité à partir de la chaleur produite par le réacteur nucléaire était mieux connu par les Américains que celui du BES-5, puisque c'était eux qui avaient eu cette idée de conversion de chaleur dès la fin des années 50 et avaient collaboré avec les Russes au début. Ces deux satellites nucléaires avaient connu une avarie similaire un peu plus de 10 ans après leur mise en orbite. Le 4 juillet 2008, le SSN avait repéré une trentaine de débris entourant Cosmos 1818 qui ressemblaient à des billes métalliques, ce qui avait été interprété comme une fuite de caloporteur, un mélange de sodium et de potassium liquide, qui devait être pollué par des éléments radioactifs étant donné que le caloporteur était en contact direct avec les éléments combustibles. Cosmos 1818 se trouvait sur une orbite à 780 km et 65 degrés d'inclinaison. Et la même mésaventure était visiblement arrivée à son jumeau Cosmos 1867, en avril 2014, quand au moins 24 débris furent détectés autour du satellite espion, positionné sur la même inclinaison que Cosmos 1818, mais 20 km plus haut. On ne pouvait absolument pas suspecter une quelconque action malveillante envers ces deux satellites, puisque leur durée de fonctionnement initiale n'était que de 6 mois. Ils étaient déjà des déchets depuis plus de 20 ans au moment de leur fragmentation partielle. Dans sa liste de suivi, Lars avait aussi les 10 RTG américains au plutonium 238 qui étaient toujours en orbite dans la famille des Transits et des Nimbus des années 60. Et les deux RTG russes au polonium 210, les satellites Cosmos 84 et Cosmos 90, qui dataient de 1965. Contrairement au plutonium 238, dont la demi-vie était de 87 ans, le polonium 210 avait une demi-vie de seulement 138 jours. Autant dire que depuis 60 ans, il ne restait plus aucun atome de polonium radioactif dans ces deux tromblons. Il s'était transformé en plomb 206. Inactif, certes, mais au moins aussi toxique chimiquement que le mercure des batteries. Le plutonium-238, lui, se désintégrait en uranium-234, qui était aussi radioactif, mais avec une demi-vie de 245 000 ans. C'était beaucoup plus court que celle de l'uranium-235 des réacteurs BES-5 et Topaz, qui était de 700 millions d'années. Les petits cœurs des réacteurs russes étaient donc encore quasi intacts, juste pollués par une petite quantité de produits de fission et de plutonium, essentiellement du plutonium fissile, le 239, qui était produit par capture neutronique sur les 5% d'uranium-238 restant. Le plus ancien d'entre eux datait de 1967 et le dernier de 1988. C'était Mikhail Gorbatchev en personne qui avait mis fin définitivement au programme 2 ans après la catastrophe de Tchernobyl. Peu après avoir appris l'existence de la navette secrète X-37B, Lars s'était demandé si son objectif caché n'était pas d'aller récupérer au moins une partie de ces petits réacteurs, dans le but louable de dépolluer l'espace. Mais même sans avoir accès au programme de la navette cargo secrète, il avait pu constater que la totalité des satellites nucléaires était toujours là. Son objectif devait être autre. Lars se faisait du souci concernant les 3 objets nucléarisés qui évoluaient sur les orbites les plus basses. En premier lieu, Cosmos 1900, aux environs de 700 km. Et puis, les 2 Cosmos équipés de Topaz, qui n'étaient qu'à 780 km environ. Tous les autres satellites de sa liste de suivi se situaient aux environs de 1000 km et étaient beaucoup moins concernés pour le moment. La question pour eux se poserait sans doute un peu plus tard. Les 2 satellites d'observation Sentinel-1 étaient à 693 km d'altitude au moment où ils avaient été impactés, seulement 7 km en dessous de Cosmos 1900. Les calculs que Lars avait faits avec Laurie pour voir jusqu'où la ceinture de débris allait se développer en altitude avaient montré que le plus gros déchet en orbite, le satellite Envisat, qui se trouvait à 780 km, pouvait être impacté rapidement et produire des débris peuplant les orbites supérieures. C'était la même altitude que celle de Cosmos 1818 et 1867. Il y avait donc 3 réacteurs à l'uranium fortement enrichi qui étaient exposés à une fragmentation par les débris nouvellement formés par la réaction en chaîne orbitale. Le jeune ingénieur savait que les générateurs isotopiques au plutonium avaient été conçus pour résister à une rentrée atmosphérique. Mais ce n'était pas le cas du réacteur BES-5 et du Topaz. D'ailleurs, dans le cas d'une fragmentation partielle de ces réacteurs nucléaires, le risque était plutôt une dissémination de particules de combustible irradiées qui finiraient par retomber sur Terre sous la forme d'une pluie radioactive. L'avenir semblait radieux.